magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Du mythique studio d'Hérouville aux côtés de Pink Floyd à ses collaborations avec Alain Bachung, Jean-Louis Aubert ou Julien Clerc, Dominique Blanc-Francard nous fait vivre son parcours exceptionnel. C'est à écouter ou réécouter tout de suite.
La bande passante.
La bande passante.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
C'est un ambidextre bien utile pour le fer à souder qu'il manie à merveille et dont les inconditionnels des crédits d'album dont je fais partie y voient son nom depuis 50 ans, comme sur ceux par exemple de Camille, Bill Wyman, du Grateful Dead, Alan Stivell, Denis Vigneault Ferrer, Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani, Michel Delpech, Elie Medeiros, Étienne Daho, Alain Souchon, celui de Robert Palmer ou David Bowie, Magma, Raphaël, Les Innocents et Julien Clerc. Nous nous arrêterons là de craindre d'aller jusqu'aux infos. Un passionné dont le prénom rime avec musique, DBF et sur RFI, Dominique Blanc-Franc. Car Dimino, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous reconnaissez que pour être ingénieur du son, c'est un métier pour lequel vous avez reçu une victoire de la musique. Il faut bien sûr connaître ces machines, mais il faut aussi des nerfs d'acier comme un pilote d'avion. Qui vous a donné des envies de crash ou, si vous avez peur de vous faire éjecter, qui vous a fait planer?
Des envies de crash, il y en a eu pas mal. Ça s'est souvent fini plutôt correctement parce que on n'aime pas faire mal aux gens. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens les plus agréables sont les gens les plus humbles. Et plus les gens sont forts dans leur art, plus ils sont humbles.
Donc pas de nom.
Bon, ça sert à rien de donner des noms. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt à mes débuts. Mais en fait, quand on débute, on est aussi très tendu. Donc je pense que ça exerce une forte revanche de la part de l'autre côté. Non, ça va, je n'ai pas de revendication à ce sujet. Mais ambidextre, oui.
Ambidextre, oui. Ah oui. Confirmé. Nous allons feuilleter votre ouvrage coécrit avec Olivier Schmitt, It's a Teenager Dream, itinéraire d'un ingénieur du son, et parcourir votre biodisque, l'équivalent d'un biopic dans le cinéma. Et puis nous nous rendrons chez Christophe Panzani qui nous fera découvrir en version inédite maison et non studio son dernier disque pour la bande. Antoine Alain Desmé a été notre auditeur privilégié. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique honorifique à tous les étages. Version de Jack Nitzsche de 1963 par Dominique Blanc-Francard en 2016, tirée de votre compilation It's a Teenager Dream. Ce titre est, je vous cite, un kiff personnel, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est un morceau que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle fortement l'été 62. C'est la musique d'un film italien qui s'appelait Mondo Cane, qui avait été écrite par deux Italiens très brillants. Et cette musique avait été reprise par Jacques Nitzsche, son album The Lonely Surfer.
On dit Nietzsche, hein, pas Nietzsche.
Nietzsche. The Lonely Nietzsche Surfer. Philosophe. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Jacques Nitzsche, c'était l'arrangeur de Phil Spector. C'était un garçon très très brillant qui a aussi fait l'arrangement de cordes magnifique sur Harvest de Neil Young avec le London Symphony Orchestra.
Bref, culte.
Un musicien très brillant. J'adorais cette version et j'avais super envie de la réentendre avec ce son de guitare que j'avais réussi à trouver sur l'autre titre de l'album qui s'appelle Shazam. Et dans la version de Jacques Nitzsche, c'est les violons qui jouent la mélodie. Je me suis autorisé à faire la partie de guitare et à me régaler à la jouer parce que c'est une musique ensoleillée au possible.
Vous avez bien fait. Quelle était l'intention avec ce disque DVD, quelque part impulsé par votre expérience avec la guilde du disque?
Oui, c'est peut-être à l'échelon inconscient une manière d'exorciser ces premières expériences bizarres qu'on faisait dans les années 60 dans le premier studio où je travaillais. On avait des clients qui nous amenaient des chansons du moment. Alors les chansons du moment, c'était quand même par exemple Revolver des Beatles, et il fallait qu'on les copie pour le soir même avec le petit groupe qui me servait de cobaye à l'époque, qui était les musiciens d'Eddie Mitchell. Et donc on était enfermés dans ce petit studio sans avoir la moindre idée de comment ça avait été fait, en essayant de recopier ces chansons et qu'elles ressemblent un peu à ce qu'il y avait sur le disque, afin qu'elles puissent être vendues sous le sigle les plus grands succès des Beatles, sans très gros, par André Machin, son orchestre, tout dit. Donc c'était un peu le début des covers, en fait. Mais l'idée du Teenager Dream n'est pas venue du fait que je n'étais pas arrivé à l'époque à faire ces covers correctement. Ça m'est venu parce que, en me souvenant de ce chemin long pour arriver à 50 années, de passer derrière une console de prise de son, ce qui est quand même un exploit de nos jours. Je me suis souvenu d'un truc très important, c'est que quand on enregistrait dans les années 60 un groupe, un orchestre, quelle que soit la musique, mais des musiciens qui étaient faits pour jouer dans des studios, comme celui magnifique que j'ai vu en bas par exemple, quand on écoutait ces gens jouer dans la pièce, il y avait un son fabuleux. Mais vraiment un truc, puisque la pièce est faite pour ça. C'est pas du tout comme un concert, c'est pas du tout comme un truc en plein air, c'est une pièce dans laquelle la musique est faite pour sonner correctement. Et après, quand on allait dans la cabine où il y a les haut-parleurs pour aller écouter, on était vraiment déçus. Moi, je me souviens qu'au début des années 60, on entendait les mêmes notes, la même musique, mais ça n'avait rien à voir avec la puissance et l'ampleur qu'on avait dans la pièce quand les musiciens jouaient. Et je me suis rendu compte que les deux, trois dernières années, la technologie a tellement évolué que cette différence est réduite maintenant quasiment minimum. Et j'avais vraiment envie de donner aux producteurs de ces chansons, c'est toutes des chansons, celles que j'ai choisies sur ce projet, qui ont une raison d'être sur cet album. C'est des chansons qui m'ont guidé vers ce métier, qui m'ont étonné, qui m'ont ému, qui m'ont donné envie de faire de la musique. Si on leur avait donné les moyens, justement, qu'on a aujourd'hui, j'imaginais que le son qu'on entendrait de ces chansons, sans toucher la moindre note de ce qui avait été fait à l'époque, ressemblerait plus à un disque d'aujourd'hui. Parce qu'en réécoutant ces chansons, je me disais, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné? Le son des années 60 est tellement désuet, mais l'émotion et la performance des artistes étaient fabuleuses, puisqu'on l'écoute encore aujourd'hui. Ça a été le point de départ de l'idée de ce projet.
Dominique Blanc-Francard, un ingénieur du son qui met son casque sur une oreille seulement, et pourtant vous écoutez RFI en stéréophonie.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à dire les étoiles?
Chacun fait ce qui lui plaît, chagrin d'amour, Vali, que l'on va peut-être entendre en fond derrière nous, que l'on retrouve dans It's a Teenager Dream, où elle s'accapare I'm Sorry. Et puis Grégory Ken, à l'instant, aujourd'hui disparu. L'enregistrement à l'époque se fait en 1981, c'est ça ? Exactement. Il se déroule dans votre studio Continental, qui avait besoin d'argent au moment de l'arrivée des radios libres en France. La suite, je vous laisse la compter, Dominique Blanc-Francard.
C'est pas le studio qui avait besoin d'argent, c'est moi, parce que je venais de m'installer dans ce studio. C'était d'accord. Vraiment les deux premiers mois du studio était ouvert. Et quand on ouvre un studio avec tout ce que ça implique d'investissement, de matériel, j'avais pas du tout de disponibilité devant moi. Et arrive ce garçon très sympathique, Philippe Bourgoin, avec cette chanson. Et il me dit, on m'a dit que c'était vous le meilleur, je vais absolument travailler avec vous, je voudrais que vous mixiez cette chanson. Mais ce qu'il m'avait fait écouter, c'était ce qu'on entend là, mais avec les voix témoins qui n'étaient pas les voix définitives, qui étaient beaucoup moins bien chantées que ça. Mais je décèle quand même un truc un peu original qu'on n'avait pas trop entendu en France. Et je lui dis, mais Philippe, il me dit, moi j'ai plus de budget, j'ai tout dépensé, est-ce que vous accepteriez un pourcentage en échange de votre mix sur les ventes du disque? Et je lui dis, non, je peux pas, j'ai trop de charges à payer, je vous ferai un tout petit budget puisque vous n'avez pas du tout d'argent, mais un pourcentage, il faut quand même que j'ai un minimum de flat sur ce projet. Et je crois que ça avait été négocié à l'époque à 4500 francs, un truc vraiment ridicule, quoi. Bon, on se tape dans la main, il revient deux semaines après avec le morceau fini, les voix qu'on entend là, et là j'écoute la chanson, je commence à travailler dessus, je me dis, je suis un âne, je viens de passer à côté d'un énorme tube. Mais étant honnête, un deal c'est un deal, on ne revient pas en arrière, donc on l'a fait, et puis c'était vraiment ce qui s'est passé.
La bonne humeur est primordiale dans un enregistrement, pour vous, comment arrive-t-on à la capter ?
Je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête, la bonne humeur c'est surtout... comprendre que ce qu'on fait, c'est de l'amusement. Déjà, c'est rien de compliqué. Il ne faut pas se prendre la tête avec une chanson. Je pense que même Jacques Brel riait quand il enregistrait ses chansons. Au moment où il était à le micro, il était tendu, mais autour, j'ai vu plein de documents. Il est assez drôle, quoi. Donc, c'est pas non plus des créations artistiques frénétiques. C'est pas de la peinture, c'est pas de la sculpture. C'est un moment de distraction. Donc, il faut détendre l'artiste. Il faut que l'artiste se rende compte que quand il est derrière le micro, le seul truc qu'il doit faire, c'est chanter. On a une phrase en anglais qui dit « Stop, think and sing ». C'est-à-dire « Arrête de penser, chante ». Parce que l'artiste, par nécessité, se met derrière le micro, comme moi aujourd'hui, j'ai une oreille en moi, parce que quand j'ai les deux, je ne peux pas contrôler.
Vous disiez que vous ne pouvez pas chanter.
Non, moi je n'arrive pas à chanter
juste,
avec les deux oreilles.
Vous n'arrivez pas à parler juste non plus.
Non plus, parce qu'en fait, on entend sa voix que par la transmission électrique et non plus par la transmission osseuse, et ça change carrément la manière dont on se perçoit soi-même. Voilà, ça c'est un détail.
Je vous propose de découvrir Les âmes perdues, c'est le titre du dernier disque de Christophe Panzani, ce saxophoniste qui joue hip-hop aux côtés de Guts et Hocus Pocus, mais aussi jazz avec Carla Bley et Anne Passeo. Il nous emmène dans la maison de ses amis pianistes pour des musiques intimes, cette composition en duo avec cette pianiste dont Dan Tepfer, Johanna Avishai et Laïa Djenk, rencontre pour découvrir ce nouveau disque entre Antoine Alain Desmé et Christophe Panzani chez lui à Paris.
Bonjour, je m'appelle Christophe Panzani et il y a Tony Pellman qui est assis au piano, on est chez moi. Et voilà, donc bienvenue à la maison et on va jouer donc un morceau qui s'appelle Étrangement Calme, qu'on a enregistré sur le disque avec Tony, mais du coup là on va faire une version spéciale RFI, live à la maison.
Christophe Panzani, Tony Pellman, saxophone et piano. Ce disque, Christophe Panzani, Les âmes perdues, c'est un peu l'histoire d'un saxophoniste voyageur. C'est vous qui êtes allé voir chacun des pianistes avec vos propres micros pour enregistrer vous-même. Comment c'est de travailler comme ça ? Ça doit être vraiment différent d'un disque habituel.
Moi, je voulais vraiment faire ça. la plupart de notre temps de musicien, quand on n'est pas sur scène ou tout seul en train de bosser chez nous, on est en train de jouer avec des autres musiciens. C'est informel, on se retrouve et on joue des morceaux de l'un, des morceaux de l'autre, des standards de jazz. Et en fait, ces moments-là, il se passe souvent des trucs vraiment beaux. Mais il n'y a personne qui est témoin de ça. Et voilà, c'est ce que je voulais faire dans ce disque. Et que l'enregistrement, il soit juste là, mais à la limite, on fait pas attention, quoi. Je voulais ça, quoi, parce que le côté aseptisé du studio, moi, ça me fait penser un peu à, c'est ça, un labo de chimie ou un truc où tout est hyper propre. Et là, voilà, on n'est pas en studio, on est à la maison et on est dans la pièce, avec le son de la pièce, avec le son du piano, notamment chez Jonathan Avichel, le piano, il est pire que le mien, mais vraiment, quoi. Et il l'a fait réaccorder, mais ça sonne vraiment vieux, vieux piano, un peu pourri. Désolé, hein, Jonathan, mais c'est vrai. Mais ça colle en plus particulièrement avec le morceau, avec ce morceau-là. Et c'était génial, quoi. Jonathan, il m'avait préparé à manger, donc ça mijotait dans la cuisine. Et de temps en temps, il allait là-bas voir si ça allait. Et puis, il y avait son chien qui dormait quelque part. Ça s'est toujours passé comme ça, quoi. Vraiment super cool.
Le 14 novembre 2015, vous partez enregistrer chez Laia Genge en Allemagne. Donc c'est le lendemain des attaques atroces qu'il y a eu à Paris. Et vous, sur Facebook, vous avez écrit quelque chose, Christophe Panzani. Vous citez un ami, vous dites « Le plus dur, c'est pas de faire de la musique, c'est de continuer à faire de la musique. » J'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus.
Le fait d'être musicien, on a été touché très concrètement dans notre métier parce que enfin, en tout cas, moi, j'avais toujours pensé la guerre et ces trucs-là comme des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique, avec le métier que je fais. Et la question principale, c'était qu'est-ce que je vais aller enregistrer de la musique avec ce qui vient de se passer ? Et au bout d'un moment, en discutant avec un pianiste avec qui je joue souvent et avec qui donc, j'avais joué la veille, qui s'appelle Florian Pellissier, j'ai ressenti de manière hyper forte le fait que la seule chose vraiment que je peux faire, parce que je veux pas aller me battre, je suis pas policier, je suis pas politicien, je suis pas... voilà, j'ai rien d'autre comme moyen de... J'en sais rien, de faire, quoi. Tout simplement, la seule chose que je sais faire, c'est de la musique. Et du coup, ce qui est le plus dur, c'est de continuer de faire de la musique, c'est parce que c'est jamais gagné déjà dans la musique. C'est pas parce qu'on est arrivé une fois à faire un moment qui était beau qu'on va y arriver toujours. Non, c'est jamais gagné. Ça, c'est valable dans la musique, mais c'est valable aussi dans tout ce qui est autour du fait de faire de la musique, quoi. Continuer à arriver à faire de la musique, quelles que soient les circonstances. Là, je pense aux musiciens du Titanic, quoi, qui paraît qu'ils ont joué jusqu'à la fin quand le truc c'est... Enfin, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est y arriver coûte que coûte et jusqu'à la fin.
Et comment ça s'est passé, cette session d'enregistrement qu'on entend donc dans le disque ?
C'était super fort. On s'est tous serrés dans les bras très fort pendant longtemps. Et ensuite, on s'est assis et on a discuté, je sais plus combien de temps, quoi, pendant une heure et demie. Et voilà, quoi, comme je disais tout à l'heure, on n'était pas pressé. Et voilà, donc on a parlé pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, quand tout le monde a senti que ça y est, quoi, on avait... Maintenant, c'était bien. Maintenant, il fallait aller faire de la musique.
Die Grunenbohren, titre à retrouver sur Les âmes perdues, un disque de Christophe Panzani tout fraîchement sorti et expérimenté sur scène ce vendredi 1er juillet au Duc des Lombards pour celles et ceux qui sont à Paris. Qu'a pensé le responsable du labo Matic, entre autres, de ce musicien qui parlait de labo et de chimie ?
J'ai trouvé ce sujet magnifique parce qu'en fait il a résumé en quelques mots tout mon parcours depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire on s'en fout de la technique. La technique, c'est un moyen pour capter les choses sur un support. Ce qui est important, c'est l'état de l'âme des gens qui sont derrière les machines, que ce soit de notre côté d'ailleurs ou dans le studio. Et le son de ce premier morceau qu'on a entendu, qui n'est pas du tout un son conventionnel d'enregistrement, on pourrait citer à la Rudy Van Gelder pour ce qui était des Blue Notes des années 50. On sent que ça, à la limite, ça a été peut-être pris avec un téléphone portable. J'ai trouvé ça d'une émotion, mais magnifique.
À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, les aventures de Dominique Blanc-Francard 2, avec celui qui a côtoyé Pink Floyd ou Elton John. Même pas mal, à tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
La bande passante.
Musique.
Sandrine Straram. Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de cet ex-pingouin septuagénaire qui aura envie de faire de la musique à la suite d'un concert de Count Basie en 1957, deviendra ingénieur du son à 19 ans, enregistrera la voix d'Orson Welles rue de l'Abbé Grégoire à Paris, fera la copie du premier album des Doors sans le savoir et laissera croire à un producteur que sa chambre d'hôtel new-yorkaise donnait sur des travaux par le biais d'une cassette enregistrée collée à sa porte. Sacré rigolard. Dominique Blanfrancard, rebonsoir.
Bonsoir.
Parmi les groupes, les artistes que vous avez côtoyés, y en a-t-il au moins un qui vous rappelle un plat, un sandwich?
C'est-à-dire en temps passé ou au niveau du goût de la musique?
Un peu des deux si vous voulez, ou même directement en étant très terre à terre.
Un groupe ou un artiste?
Je vous aide
Oui, dites-moi.
The Dragons et leur Pambagna du midi.
Ah oui, oui, oui. Ah,
ben, c'est... groupe où vous aviez...
Mais j'étais pas en studio à l'époque.
Non, mais vous aviez été engagé comme bassiste anglais en plus à l'époque et avec qui vous campiez et managez par Jean-Claude Camus. Et vous mangez un Pambagna tous les midis.
Oui, parce que le bassiste était parti, il fallait le remplacer, mais la règle, c'est que pour le remplacer, il fallait faire croire qu'on était anglais. Donc ça m'a aidé parce que je parlais très mal anglais. Au bout d'une semaine, je parlais beaucoup mieux. Mais moi, c'était assez peu banal.
Dominique Blanfrancard est avec nous aujourd'hui et il était avec le manager de Johnny Hallyday à l'époque, Jean-Claude Camus, pour ses Dragons. C'est l'une des nombreuses anecdotes dont regorge votre livre, It's a Teenager Dream, itinéraire d'un ingénieur du son, dont nous continuons de tourner les 314 pages, sans oublier cet album de 15 titres qui ont bercé votre adolescence, repris par des artistes aussi différents que Jean-Louis Aubert, Stéphane Echer, David McNeil ou Salvatore Adamo. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique, pas qu'anecdotique à tous les étages. Tube de 1960, version de Johnny Burnett, You're 16, interprété par Hubert Mounier, qui a eu la mauvaise idée de nous quitter, à qui cet album est dédié. Un fidèle de la bande, venu régulièrement avec l'affaire Luce Trio, mais aussi pour ses disques perso. Vous le tenez, Dominique Blanfrancard, pour l'un des meilleurs crooners de la vague rock des années 80-90, et j'ajouterai l'un des meilleurs mélodistes aussi. Pourquoi n'a-t-il pas pu rencontrer le succès en solo que ça?
Écoutez, avec Hubert, on s'entendait énormément parce qu'on avait fait deux albums fabuleux ensemble, dont le Mobilis in Mobile, qui était quand même une magnifique œuvre. Et on s'est revus de nombreuses fois. Après, c'était un perfectionniste qui avait toujours le sens du détail. Ses chansons étaient assez exigeantes dans la forme et dans l'écriture, tant pour le texte que la musique. Et je pense qu'on est dans un pays où c'est difficile de briller quand on est axé vers une qualité maximale. C'est quand même élitiste. je pense pas que ce soit désagréable à écouter. Je pense que c'est difficile de fédérer un public important autour de chansons de cette qualité. Il en souffrait évidemment, mais il était aussi très tourné vers le dessin. C'était un dessinateur absolument exemplaire. Il était en train de finir un Tarzan quand il avait la mauvaise idée de nous quitter. Mais quand il est venu aussi pour faire cet enregistrement, on a passé 2 jours de bonheur béat parce qu'il avait enregistré en direct avec les musiciens. C'est un truc qu'il adorait. Et pour la petite histoire, quand j'ai proposé à Hubert de faire cette chanson, il m'a dit « Bon, alors il faut que je trouve quelle tonalité, parce que Johnny Burnett, c'est compliqué. » Il m'a envoyé des petites vidéos qui tournaient avec son iPhone. Il mettait son iPhone devant lui, jouait des guitares et chantait la chanson. Et, d'une part, pour être sûr que ça allait me plaire, la tonalité, et aussi pour se souvenir comment il jouait de la guitare. Comme ça, il se filmait, il voyait tout de suite, quand il réécoutait une chanson, il avait mis les doigts sur le manche. C'est très, très futé.
L'affaire Lustrio, autre groupe dans votre histoire d'ingé son, Dominique Blanc-Francard, Au bonheur des dames, qui a fait un carton avec le Oléfi des Pingouins, autre groupe de 1962. En quoi les séances avec eux furent-ils épiques?
Ben, en fait, parce que c'était un groupe qui était tourné vers le... C'était un peu un groupe de farceurs, ils étaient drôles, les musiques, les chansons étaient excellentes, c'était pas des musiciens fantastiques à l'époque, et comme le réalisateur de ce projet était l'ancien chanteur de mon groupe, on était tous les deux en train de leur dire « Et les gars, nous, ils nous ont fait faire ça en 2h30, vous n'allez pas passer 2h30 à enregistrer cette chanson » quand on piquait les fesses comme ça, un peu, c'était marrant.
C'était bien comme ça, Claude Ranval, dit Jimmy Freud, chanteur et saxophoniste de Au bonheur des dames à l'époque. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique, bonsoir.
Vous vous souvenez de Claude Ranval, Jimmy Freud?
Ouais.
Alors c'était comment ces sessions là?
Ah ben, enfin pour moi c'était ça a été un grand souvenir effectivement. C'était au château d'Hérouville. Je crois également me souvenir de la date. Enfin, en fait on a fait déjà un simple à Hérouville au mois de mai 73 et on est revenu pour l'album dans lequel il allait y avoir donc Oléfi en octobre de cette même année. Voilà.
Fin octobre. Juste.
Voilà, exactement. Et donc, c'était très intéressant parce que pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on rentrait vraiment dans un studio et qu'on allait faire un travail sérieux. Et l'une des anecdotes dont je me souviens, c'est que David Bowie était dans un studio à côté. Et je crois qu'on lui a prêté une guitare pour qu'il enregistre les titres de l'album qu'il était en train de faire. Voilà.
Les pin-ups avec
ça, je me souviens pas.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Voilà, exactement.
Et moi, je me souviens très bien qu'on avait enregistré notre réalisateur favori, Thierry Vincent, avec un micro... parce que le studio d'en bas était sur une cour avec du gravier, il était allé faire pipi dehors, on l'avait enregistré, on avait planqué ça entre deux titres aussi.
Où elle, exactement, la petite blague, on entend bien les graviers du château, absolument.
Et aussi la phrase magique, on avait inventé le ghost track, puisque ça n'existait pas encore à l'époque, c'est-à-dire à la fin d'une phase...
Le titre fantôme.
Voilà, à la fin d'une phase, il y avait du silence, et Thierry disait, mais allez, retourne le disque.
Oui, exactement.
Alors, on était des farceurs.
Qui est devenu Jimmy... Oui, ça vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Jimmy Freud, qu'êtes-vous devenu maintenant aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus avec Au bonheur des dames?
Bon, aujourd'hui, j'ai quelques années de plus. J'ai fait une carrière de médecin psychiatre qui se termine, mais j'écoute toujours beaucoup de musique. J'essaye même d'en faire avec des amis. Preuve que le démon du rock'n'roll est toujours là, il n'y a pas de problème.
Voilà, la musique mène à la clinique, oui.
Ou l'inverse.
Merci beaucoup, Jimmy Freud. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Merci.
Sorti avec Monique, au cinéma on est allé, et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Les filles, elles me rendent un marteau. Les filles,
sur RFI dans la bande passante, les deux versions de Oh les filles par les Pingouins. Et juste auparavant, c'était Au bonheur des dames. Dominique Blanc-Francard, vous avez fréquenté les studios d'enregistrement les plus mythiques, à commencer par le château d'Hérouville dans les années 70. Je risque peut-être de me tromper. Il y avait Etat Gaffinel en 67, 68, 69, quelque chose comme ça, en passant par l'Aquarium, le Plus 30, le Ferber, Continental Studio, Guillaume Tell, studio de l'Oncle Sam, Ferber, Philips, Barclay, Pathé, jusqu'au Labomatique aujourd'hui. Désormais, on peut s'offrir un studio pour le prix d'un microphone de marque. Qu'en pensez-vous ?
On peut s'offrir un enregistreur, on appelle ça une workstation, c'est-à-dire un équipement d'enregistrement de la taille d'un MacBook, oui, un petit ordinateur. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que ça permet de faire plein de choses qui sont d'une extrême qualité. Le studio en soi, pour moi, ça n'est pas que l'enregistreur, c'est aussi l'endroit, la pièce, l'acoustique, les ondes qu'il y a dedans, la manière dont ça résonne avec l'instrument. La musique est aussi faite pour être jouée par des gens en même temps, pas que des gens qui mettent des couches dans un ordinateur. C'est une autre forme de musique, elle n'est pas du tout discriminatoire, ma position. C'est juste que la musique jouée par des humains entre eux est difficile à faire ailleurs que dans un studio.
Dominique Blanc-Francard, qui joue toujours avec sa fidèle Fender Stratocaster Rouge 66, de la Stratocaster 66, nous passons à 1967. Ce n'était pas sa plus connue, voire celle qu'il détestait, mais Frank Sinatra chantait tout de même ça.
Bonjour, c'est Pop 2.
Alors, je vais d'abord dire l'un des fils de Dominique, Mathieu alias Sinclair, le frère Patrice animant Pop 2 entre 1970 et 73 sur la deuxième chaîne de télévision française. Il y a Hubert, l'autre fils d'Ikesus et Motorbass, Laika et Nina qui se déguisent parfois en Ronettes. Qui sont Laika et Nina ?
La fille cadette Laïka de Hubert,
ouais,
et Nina, la fille de Mathieu et d'Emma de Cône.
Okay. Donc c'est dans le moment de revenir sur la saga de la famille Blanc-Francard, qui commence avec une mère mélomane et un père technicien à la radiodiffusion française. Ce sont eux ou le gramophone de votre grand-mère qui vous ont donné goût à la musique, Dominique ?
Je pense que Il y a les deux. Il y a le fait que mon père était un ingénieur du son brillant. Pour moi, ça voulait dire à l'école définir le métier de son père. Il ne comprenait rien ce que ça voulait dire. Mais en même temps, je trouvais ça marrant d'avoir un père dont personne ne connaissait le métier. C'était super drôle. De le visiter tout le temps, les studios de la radio ou de la télévision, d'aller avec lui voir les caméras à Cognac, d'aller dans les studios quand j'étais tout petit. Alors, j'ai un souvenir, par exemple, à l'époque où Radio France avait encore des studios, le poste parisien de l'avenue des Champs-Élysées, qui était le centre, je ne sais plus quoi, puisque ça s'appelait des centres à l'époque. Un jour, il nous avait emmenés avec mon frère, et puis il n'y avait pas de magnétophone encore. On avait enregistré une, on avait papoté comme on fait là. Alors, gravé sur un disque, on était rentré à la maison, j'avais écouté le disque, et pour moi, c'était comme si j'étais monté dans une navette spatiale ce jour-là.
Alors, j'ai pas dit que c'était donc Sinclair qui chantait The World We Knew,
absolument,
votre fils, chanson de Frank Sinatra, ça j'ai dit auparavant. Vous vouliez ajouter deux mots sur Frank Sinatra, Dominique?
Frank Sinatra, c'est un chanteur, pour moi, c'est un des plus grands chanteurs de variété classique américaine, chanteur de jazz qui commence avec les big bands. Après, il arrive en 1960, la vague. Il a commencé très jeune, à 25 ans, il était déjà très célèbre. Après, il fait une deuxième carrière en étant chanteur de grand orchestre de jazz. Et au début des années 60, les grands orchestres de jazz, ça commence à tomber en décrépitude. Et sa maison de disques, Capitol, embauche un nouveau directeur artistique, Jimmy Bowen, pour le guider vers une nouvelle carrière. Et donc, il enregistre simultanément son premier succès de ce qu'on appelait à l'époque mainstream music, musique de variété américaine. Donc, c'était Stranger in the Night, qui était une chanson qu'il détestait cordialement parce qu'elle était écrite par un trompettiste allemand qui s'appelait Bert Kampfert, qui était un peu l'équivalent de notre Georges Jouvin dans les années 60.
D'accord.
Et donc, devant le succès de cette chanson, il y a une récidive deux ans après, et il sort ce titre, The World We Knew, qui sort en 66, si je ne m'abuse. J'écoute ça, moi je me dis, mais c'est un ovni cette chanson, je ne comprenais rien à sa structure, parce qu'en fait il n'y a pas de couplet, pas de refrain, et en même temps il y a une performance vocale incroyable dans la chanson, et je me suis mis au défi de la reproduire dans les critères de mon Teenager Dream, parce qu'elle m'avait posé un gros problème quand elle est sortie. Et évidemment il me fallait un cobaye pour amorcer ce projet. Donc j'appelle Mathieu Sinclair, mon fils, et je lui dis, Mathieu, tu voudrais pas me faire plaisir, essayer de faire Sinatra pour moi? Il me dit, mais t'es complètement fou, je peux pas chanter Frank Sinatra, c'est, personne ne peut chanter comme Sinatra, demande-moi de faire un cover de Sly Stone ou de Prince, il n'y a aucun problème, mais je lui essaye quand même. Et puis il m'envoie ça, et là je me dis, mais j'étais quand même sous le choc, parce que c'est une magnifique performance, et puis voilà, du coup ça m'a donné courage pour la suite du projet.
Alors, vous étiez fixé pour ce projet, pour It's Teenager Dream, pour ce disque, que les garçons chantent uniquement des titres de garçons de l'époque, et idem pour les filles.
Oui, parce qu'en fait, je voulais prendre les versions originales et en faire une version d'aujourd'hui, mais qui soit un hommage à la version originale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence possible à l'écoute avec l'arrangement d'époque. Et évidemment, quand on prend Frank Sinatra, je ne pouvais pas demander à Camille de le chanter, par exemple, ça n'aurait eu aucun sens. Mais quand j'ai demandé à Françoise Hardy si elle voulait participer au projet, elle me dit « Oh, j'adorerais participer à ton projet, mais je ne peux pas chanter Bye Bye Love, puisque j'avais proposé la chanson des Everly Brothers. » Elle me dit « Je voudrais chanter cette chanson magnifique de Buddy Holly, True Love Ways. » Et là, j'ai un grand silence, je me dis « Bon, mais j'avais pas du tout prévu ça. D'une part, c'est une chanson de garçon. Deuxièmement, c'était pas dans mon tracklisting, mais que Françoise accepte et me réponde oui, alors que c'est quand même quelqu'un qui est dur à convaincre sur n'importe quel sujet. » J'ai embrayé direct en « Oui, oui, on va le faire. » Et je me suis mis au travail, puis ça a donné un résultat superbe.
Just you know why, why you and I will by and by, no true love ways. Sometimes we'll just you and I, no true love ways. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. And we'll know why the days our true love wears. We'll bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll we'll cry and we'll know why, just you and I know true love wins.
True Love Ways par Françoise Hardy en 2016, version de Buddy Holly de 1958, trois ans avant que Françoise Hardy ne reçoive en cadeau pour son bac une guitare. Qu'est-ce qui vous séduit chez Françoise Hardy, Dominique Blanc-Francard ?
Ce que j'adore chez Françoise, c'est sa fausse innocence, c'est-à-dire sa faculté de d'épingler un papillon avec une aiguille sur le mur, avec le sourire.
Belle image.
Oui, non, mais elle a un discours, un franc-parler, une analyse des choses, mais discuter avec elle, c'est un vrai bonheur. Mais en même temps, elle peut être très cash et très dure, quoi. Genre, on est sur cette fameuse chanson, sur cette fameuse chanson, on s'est pris pendant quelques mois sur les violons. On avait un débat parce qu'elle n'aimait pas les violons. J'avais beau lui expliquer que le fait de transposer la tonalité pour une fille de 3 demi-tons, c'est beaucoup quand même, ça change le son de la version originale. Et très récemment, quand elle a fini par savoir qu'on allait utiliser cette chanson comme premier extrait, elle me ressort les violons, je lui dis « Mais Françoise, n'oublie pas que le concept même de mon projet, c'est de respecter la version originale. » Alors, elle ne répond pas. Après, elle me renvoie un mail au bout d'une heure en faisant « Argle, je viens d'écouter la version originale, il y a des violons. Je ne les avais jamais entendus. » Ouais. Bon, après, c'est Françoise, mais en tout cas, c'était réglé.
La question que doivent se poser un tas d'artistes débutants ou pas, et que vous a posé le propriétaire du studio Stars Music en 1980, devenu le studio Continental, combien ça coûte, hein, Dominique Blanc-Francard ?
Je crois que ça coûte pas grand-chose, ça coûte l'envie de travailler ou pas. En fait, c'est pas monétisable l'envie, en fait. Je me suis rendu compte à mes dépens que quand on accepte une mission qu'on n'aime pas juste parce qu'elle est bien payée, on va pas au bout. On met tout le monde dans la panade et ça fait de très mauvaises vibrations. Donc à l'extrême, il vaut mieux... En fait, c'est que je crois que j'ai appris à dire non avec les années.
Vous qui partez en voyage, a chanté Françoise Hardy, mais Dominique aussi a chanté le voyage.
Je suis allongé sur mon lit, je suis à moitié endormi, les yeux fermés. Des images inconnues défilent devant moi, dans quelques instants je vais m'échapper de ce monde idiot dont je suis prisonnier, je vais dans un autre univers, je plonge dans le rêve et le rêve m'arrache à la terre.
Voyage, Dominique Blanc-Francard, sur votre album Ailleurs de 1972. Oui, vraiment ailleurs, parce que là on est en train de partir ailleurs. Ouais. Ça y est, il est réédité ce disque ?
Oui, il est réédité chez Barclay, puisque c'était chez Riviera, la version originale. Et j'en ai profité pour le remasteriser, car j'ai eu la chance que Barclay ait gardé la bande master d'époque. Moi j'ai tout perdu, j'avais qu'une vieille copie, j'avais même qu'un vinyle qui avait tellement tourné que j'avais pas réussi à faire quoi que ce soit avec. Et j'avais demandé à Barclay, est-ce que je pourrais récupérer la bande ? Ils m'ont dit non, on veut pas te la rendre, mais on va t'en faire une copie. Et ils m'ont fait une copie en haute def qui était vraiment d'une extrême qualité. Et j'étais quand même, j'avoue que j'étais très très surpris de la qualité sonore de cet enregistrement qui est quand même... 1972, quoi. Mais on était au château d'Hérouville, j'avais une émulation de tous les projets qui tournaient autour de moi à l'époque, que des gens très brillants. Et en fait, c'est un album concept dans lequel j'ai pu exorciser avant l'heure tous mes fantasmes de producteur qui ne gênaient personne, puisque c'était mon disque, donc ça ne pouvait pas gêner personne.
Au XXIe siècle, y aura-t-il une suite de ce voyage du XXe siècle, Dominique Blanc-Francard ?
Je ne sais pas. Je pense que à la lueur de ce projet, qui néanmoins a vendu la quantité phénoménale de 886 exemplaires à sa sortie.
Bravo.
J'ai assumé le fait de l'avoir fait, d'avoir chanté, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est pas ça du tout qui me faisait envie. Moi, ce que j'aime, c'est la musique, la produire, la malaxer, la fabriquer, la faire naître de la part des musiciens, des interprètes. Mais je suis pas du tout à l'aise dès qu'il y a des gens devant moi et que je dois chanter dans un micro. C'est pas mon truc. Ouais.
Je rappelle le titre de vos livres et Biodisc, It's a Teenager Dream, itinéraire d'un ingénieur du son. En plus, pour lire le livre, donc titre très explicite, mais était-ce aussi pour dire qu'avec la musique, on demeure à jamais adolescent, parce que l'album de la maturité, ça n'existe pas, ou enfin parce que les pingouins ne vivent en moyenne que jusqu'à 20 ans.
Non, je pense que le titre des deux projets, le livre et le bouquin, c'est juste parce que c'est un hommage à nos rêves d'enfants, quoi.
Merci infiniment, Dominique Blanc-Francard.
Merci, Alain.
It's a Teenager Dream est sorti chez Le Mot et le Reste et le biodisque chez Parlophone. Fin de cette rediffusion de la bande de Dominique Blanc-Francard. Demain, Yves Bigot, une bible musicale à lui tout seul. Tout de suite, le journal.